religion du monde. Véronique Guémard.
Bonjour à toutes et à tous. Vous entendez à nouveau le souffle de l'orgue monumental de la cathédrale Notre-Dame de Paris, des chants également, donc avec la maîtrise de Notre-Dame dans Notre-Dame de Paris qui se relève de ses ruines, disait Monseigneur Laurent Ulrich, l'archevêque de Paris qui préside actuellement donc la première messe de réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris qui rouvre donc ce dimanche 8 décembre, 5 ans et 8 mois après le terrible incendie qui l'avait ravagé le 15 avril 2019 et la forte émotion que cette catastrophe avait suscité dans le monde. Donc après cette cérémonie de réouverture plus politique hier samedi en présence d'une quarantaine de chefs d'État, la messe a débuté ce dimanche à 10h30 heure de Paris, une messe de consécration de l'autel. Nous en parlerons et nous accueillons en studio pour suivre cet événement Arnaud Alibert. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes rédacteur en chef au journal La Croix, qui est partenaire de RFI pour cette émission, et vous êtes également prêtre assomptionniste. Et vous allez nous aider à décrypter ces moments clés de la messe de réouverture aux fidèles de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Et tout d'abord, le choix de ces chants en ouverture de la messe. Donc, pendant l'arrivée de la procession de prêtres, d'évêques et l'archevêque de Paris, l'assemblée a chanté donc « Peuple de Dieu, cité de l'Emmanuel ». C'est un chant traditionnel de la cathédrale ?
Oui, c'est un chant qui convient pour ce genre de cérémonie, que ce soit à Paris ou partout en France, ou dans même les diocèses francophones. C'est un chant qui chante à la fois la louange de Dieu et l'Église, les deux à la fois, puisque c'est un chant de louange qui s'adresse à Dieu en disant « cité de l'Emmanuel », donc c'est plutôt l'Église à ce moment-là. Donc il y a une superposition des deux images et qui rebondit sur trois termes. Un peuple choisi, c'est-à-dire aimé de Dieu, qui devient ami de Dieu, et avec ce refrain qui revient tout le temps « rappelle-toi ». Alors « rappelle-toi », pour Notre-Dame de Paris, cela convient bien. C'est à la fois « rappelle-toi » d'où tu viens, c'est-à-dire cet incendie qui a failli te mettre à bas. Et rappelle-toi aussi les merveilles. Alors, on peut se rappeler les merveilles de l'artisanat, on y reviendra, on est déjà largement revenu dans les éditions précédentes. Et puis, mais c'est rappelle-toi aussi que Dieu se souvient de toi et prend soin de toi.
Alors, la date de réouverture au culte et au public n'a pas été choisie aussi par hasard. Le 8 décembre, c'est la fête de l'Immaculée Conception. Ce dimanche fait partie de l'Avent, c'est la période préparatoire à la fête de Noël. La fête des Lumières, d'ailleurs, qu'on fête à Lyon. La place de la Vierge Marie dans cette cathédrale Notre-Dame de Paris. Notre-Dame, c'est la Vierge Marie.
Ah ben, tout à fait. C'est, alors, on dit que Notre-Dame, que la Vierge Marie est représentée 37 fois dans la cathédrale. Je vous avoue que je n'ai pas compté. En tout cas, on connaît les trois grands lieux de sa représentation. Il y a la rosace occidentale avec ce vitrail magnifique où elle porte l'enfant sur ses genoux. Il y a évidemment la Pietà qui est tout au fond de la nef, surplombée par une croix qui est venue bien plus tard, elle est venue en 93. Donc cette Pietà où Marie, dans les larmes, a sur ses genoux un Jésus mort, descendu de la croix, gisant. Et puis il y a la Vierge au pilier.
Alors la Vierge au pilier, justement, un des moments forts pour les fidèles et pour la cathédrale, a été le retour avec une procession donc, de cette statue de la Vierge à l'enfant. C'était le 15 novembre dernier, la Vierge du pilier qui a échappé à l'incendie, donc au pied de laquelle Paul Claudel, le célèbre poète et dramaturge français, s'était converti au catholicisme le 25 décembre 1886. Donc cette Vierge du pilier, qu'est-ce qu'elle symbolise ?
Alors là, elle symbolise ce qu'on est en train de vivre. Elle est donc à la fois une miraculée, puisqu'il faut s'imaginer que la flèche a transpercé la voûte, que le plomb a coulé de partout, qu'elle aurait pu prendre feu mille fois. Et en fait, elle est restée intacte. Elle est donc une statue tout à fait délicate où Marie porte l'enfant, mais Jésus, avec son bras, semble la tenir à l'écart pour essayer de lui de lui épargner des peines, mais son visage lui-même porte une forme de mélancolie, de tristesse. Et donc, on est vraiment dans l'atmosphère de cette église martyre par l'incendie. Et enfin, c'est la Vierge qui a été l'occasion de la conversion de Claudel. Donc, c'est une Vierge qui aide les croyants à se tourner vers Dieu.
Évêques, prêtres et diacres, fidèles du Christ, baptisés, consacrés, serviteurs de l'Évangile, selon votre condition et votre mission particulière, frères et sœurs parisiens aimés, ne restez pas seulement éblouis de la beauté des pierres retrouvées.
Alors on entend Monseigneur Ulrich, donc l'archevêque de Paris, qui préside cette messe, Arnaud Alibert.
Oui, ben là c'est une exhortation, on est en fin d'homélie. L'homélie, c'est donc ce moment où on commente les textes. En amont, il a bien rappelé l'itinérance du peuple des chrétiens. Et là, il est en train d'adresser une parole forte au peuple de Paris, en lui disant sors de l'éblouissement, laisse-toi éclairer d'une certaine manière par le message de Notre-Dame, et donc aime, parce qu'on sait que dans le christianisme c'est l'amour qui est vainqueur de toutes les difficultés. Donc c'est un appel à la fois assez classique, mais il faut s'imaginer que pour le Monseigneur Ulrich c'est quand même une grande première, parce que c'est la première fois qu'il célèbre dans Notre-Dame, puisqu'il est arrivé archevêque de Paris alors que Notre-Dame de Paris était fermée. Et donc, c'est la première fois qu'il vient dire à son peuple de Paris, sois dans l'amour, aime ton prochain, comme le disait Jésus.
Et cette messe, donc, on voit dans cette cathédrale qui est pleine de fidèles, d'invités. Donc, il y a à peu près 150 évêques de France du monde entier, des chanoines du chapitre de la cathédrale. Il y a un prêtre de chacune des 106 paroisses du diocèse de Paris, des fidèles aussi. A priori, deux jeunes et un adulte paroissien, un prêtre aussi de chacune des 7 églises catholiques de rite oriental. Le pape François, lui, est absent. Il sera en Corse le week-end prochain pour une visite pastorale en clôture d'un colloque sur la religiosité populaire. Il a tout de même envoyé un message qui a été lu hier par le nonce apostolique, le représentant du Vatican en France, dans lequel il a plaidé pour accueillir généreusement et gratuitement la foule immense de visiteurs donc attendus à Notre-Dame. Et puis, il a dit « Puisse la renaissance de cette admirable église constituer un signe prophétique du renouveau de l'église en France ». Un message fort ?
Oui, alors un message très fort. Notre pape, malgré son âge, reste un homme qui a le souci de la communication. Donc, ce n'est pas la première fois qu'il fait des vidéos ou qu'il envoie évidemment des messages. En l'occurrence, c'est un message papier qu'il a fait lire par son représentant en France. Donc, il a le souci du lien, mais il a aussi le souci de la hiérarchie des valeurs. Et là, en l'occurrence, il s'agit de célébrer hier et aujourd'hui le fait que l'archevêque de Paris reprend possession de sa cathédrale. Donc il a choisi de ne pas faire de l'ombre à cet événement qui lui paraissait le plus important. Donc là on a le credo en latin. Donc c'est un passage obligé de la célébration d'un dimanche, et les liturges ont prévu de le chanter dans sa version qui rappelle le chant grégorien. Donc c'est à la fois très classique et ça ne surprend personne.
Alors, sont présents également dans cette église les représentants des principales traditions religieuses de France, donc protestants, orthodoxes, musulmans, juifs, bouddhistes, et des représentants de chacune des 7 églises catholiques de rite oriental, dont on a appris qu'une chapelle leur sera dédiée au sein de la cathédrale Notre-Dame de Paris et qui sera inaugurée le 25 mai prochain, ce dont se réjouit le patriarche maronite du Liban, Béchar Aboutros Rahi, invité par Emmanuel Macron à la cérémonie de réouverture Notre-Dame samedi.
C'est très important. Moi, je remercie l'archevêque de Paris pour cette idée. Savoir que dans la Notre-Dame qui ressuscite, qu'il y aurait une chapelle pour les églises orientales, je le considère une chose très importante. Et je souhaite que ceci soit une bonne occasion de liaison entre l'Église, les Églises d'Orient et l'Église de France. Je pense qu'il y aura beaucoup de pèlerins qui visiteront Notre-Dame encore pour cette chapelle.
Voilà, le patriarche maronite du Liban, par ailleurs inquiet de la situation en Syrie, RFI, y revient évidemment tout au long de ces éditions. Alors, comment doit se dérouler cette messe d'inauguration, Arnaud Alibert? Il y a un certain nombre de rituels, un déroulé particulier?
Oui, alors on est à la fois sur la célébration d'un dimanche, le dimanche de l'Avent. Donc, on y retrouve les points essentiels d'une messe avec la lecture de la Bible, la messe, c'est-à-dire autour de l'autel, le partage du pain et du vin, et puis l'envoi. Mais dans cet écrin-là, on a rajouté des éléments absolument essentiels qui donnent en fait à la célébration d'aujourd'hui son caractère tout à fait particulier. C'est le rite de consécration de l'autel qui sera le rite majeur. Il y aura aussi d'autres moments. Il y a eu la bénédiction au début de la célébration, la bénédiction du peuple par une aspersion d'eau bénite. Il y aura à la fin de la célébration la bénédiction du tabernacle, c'est-à-dire ce lieu où l'on va, où l'on met les restes du pain consacré qui n'a pas été consommé. Donc on le met dans ce qu'on appelle la réserve eucharistique. Donc là, on voit bien qu'on aura des moments qui ne seront pas à négliger. Mais le grand moment, ça sera la consécration. On parle de consécration de l'autel.
Alors, on sait aussi, donc il y a une procession effectivement qu'on a vue lors de la messe, avec on porte aussi un récipient qui contient le saint crème, donc l'huile bénite qui va servir à cette consécration de l'autel. On va y revenir de toute façon tout au long de cette émission. Et puis, alors on a su aussi que le vin de messe qui sera servi au cours des 8 jours de réouverture à la cathédrale, c'est un petit vignoble du domaine de la Bénisson-Dieu, un vin blanc naturel qui a été choisi par Mgr Ulrich et qui sera donc consacré dans le calice. On va réécouter à nouveau ces chants qui se déroulent actuellement dans la cathédrale.
Christ, l'unique médiateur, qui lui présente en même temps la prière.
Alors, on n'a pas les chants, on a l'obélie ou le discours, en tout cas, de Mgr Ulrich.
C'est la présentation ou l'appel de Mgr Ulrich avant le chant. Qui va être le chant qu'on appelle la litanie des saints, qui en appelle à tous les saints. Qui commence par une litanie pénitentielle, et ensuite on appelle tous les saints, on s'en remet à tous les saints du ciel pour qu'ils soient avec nous et donc pour constituer ce que traditionnellement on appelle l'Église du ciel en communion avec l'Église de la terre.
Alors, ces chants donnent aussi cette dimension sacrée donc, de ce lieu, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. 15 millions de visiteurs sont attendus désormais, selon le diocèse de Paris. 5 ans après l'incendie, la pierre a été nettoyée, a retrouvé son éclat, ainsi que les peintures, les chapelles ont été restaurées. La cathédrale est plus lumineuse, comme personne ne l'avait jamais vue, nous dit même l'architecte en chef Philippe Villeneuve. Amoureux de ce monument, dont l'une des pièces maîtresses les plus visibles a été la reconstruction de la flèche érigée par l'architecte Eugène Viollet-le-Duc au XIXe siècle, qui avait brûlé dans l'incendie.
La pose de la flèche, c'est en fait l'élément le plus...
Une flèche à l'identique.
Absolument, elle est à l'identique. Et c'est-à-dire qu'il y a les mêmes matériaux, la même mise en œuvre, les mêmes compagnons. Et souvent, on peut se dire, quand on est dans la cathédrale et qu'on voit un tailleur de pierre, qu'on voit un charpentier, qu'on voit un coureur, on se dit, tiens, c'est drôle, notamment pour cette flèche, mais pour la charpente médiévale, c'est exactement la même chose. Nous sommes exactement en train de faire ce que des compagnons ont fait il y a 800 ans ou il y a 150 ans. Et ça, quelque part, c'est très émouvant parce que c'est les mêmes gestes, les mêmes mouvements, probablement les mêmes peurs, les mêmes angoisses, les mêmes joies. Et on se dit que bah, finalement, la transmission, la passion et tous ces savoir-faire, c'est quelque chose qui, effectivement, peut symboliser ce chantier.
Vous disiez qu'effectivement, 5 ans, ce n'est rien au regard de cette histoire que représente Notre-Dame.
5 ans, oui, c'est un saut de puce. 861 ans d'existence depuis la pose de la première pierre. Et puis, il y a eu 2019 qui est, on peut dire, la pire des catastrophes que Notre-Dame a connue au cours de son histoire.
Cet incendie qui a ravagé Notre-Dame.
Voilà, Notre-Dame avait toujours échappé aux destructions. Et là, se dire qu'on l'a fait en 5 ans, c'est ça ce qui est remarquable, c'est qu'avec la réactivité et le savoir-faire des compagnons, la transmission de tout ce savoir-faire et l'organisation et la volonté, on a réussi. La cathédrale s'ouvre et j'espère que les visiteurs et les croyants, quand ils rentreront dans la cathédrale, trouveront que c'est bien et que c'est beau.
Voilà, et j'ai pu rencontrer Mathieu Lours, que nous allons entendre dans cette émission. Il est historien des cathédrales, spécialiste de l'architecture des édifices religieux, de leurs usages liturgiques, sociaux et politiques. Il est auteur aussi de plusieurs ouvrages, dont Les Résurrections de Notre-Dame ou Rebâtir Notre-Dame de Paris. Mathieu Lours, qui déroule cette aventure humaine de reconstruction sur 5 ans, comme l'évoquait Philippe Villeneuve.
C'est la preuve aussi qu'en France, on n'a jamais arrêté de faire du gothique. On n'a jamais arrêté de construire, de restaurer. Depuis la décennie 1130, quand l'abbé Sugère fait entreprendre la basilique de Saint-Denis dans cette nouvelle architecture, depuis cette époque-là, il y a toujours eu un chantier gothique ouvert, au moins en France. De construction, de restauration, c'est notre art national. Et en Allemagne, au XIVe siècle, quand on parlait du gothique, on disait « Opus Francigenum », l'art né en France.
L'art né en France.
Notre-Dame, c'en est en quelque sorte la quintessence. Et on a en fait toute cette mobilisation autour de la cathédrale qui est possible parce qu'on avait sous la main ces savoir-faire.
Et tous ces savoir-faire donc, qui ont été concentrés en 5 ans, dans les mêmes conditions finalement que ce qui a été fait au départ, c'est-à-dire quand on a érigé cette cathédrale.
Quand on a construit la cathédrale, on n'a pas pu gérer de la même manière la superposition des différents corps de métier. On assiste quand même à un chantier du 21e siècle. C'est-à-dire que ce qu'a fait l'établissement public Rebâtir Notre-Dame, coordonner tous ces corps de métier en même temps, avec un financement qui permette d'assurer tout ça, aucun chantier médiéval n'a pu faire ça. D'abord parce que les financements étaient étalés dans un temps beaucoup plus long, et d'autre part parce qu'on ne pouvait pas faire travailler certains corps de métier ensemble, on n'avait pas des échafaudages du même type. Donc c'est un chantier du 21e, on n'est pas dans un passéisme, on est dans un gothique du 21e siècle, avec le respect scrupuleux des savoir-faire.
Et pour Philippe Jost, président de l'établissement public Rebâtir Notre-Dame de Paris, travailler sur cette reconstruction avait aussi une signification particulière.
Notre mission, c'était de relever les dégâts de l'incendie et de réouvrir la cathédrale. Après, en 2025, 26, 27, on aura d'autres travaux de restauration parce que la cathédrale n'était pas en très bon état au moment de l'incendie. Et donc, c'est vraiment l'aboutissement de cette aventure collective qui nous a unis tous autour de ce monument qui a une âme. C'est un monument qui parle au monde entier, c'est pas par hasard. C'est un sanctuaire, donc il a cette dimension qui transcende. Mais c'est aussi un monument patrimonial extraordinaire par sa beauté, ce qu'il représente dans l'histoire de l'art. Mais c'est aussi un monument qui raconte Paris et l'histoire de France. Et je pense que tout ça contribue à l'âme de ce monument. Et puis un dernier élément auquel je suis plus sensible maintenant que j'ai accompagné cette restauration pendant 5 ans, ce monument, son âme, il l'attire aussi de tous les talents, tous les efforts de tous ses compagnons qui, au fil des siècles, l'ont construit, l'ont restauré, l'ont entretenu, l'ont bonifié. En fait, je pense qu'ils ont transmis aux pierres, au bois, au métal, au décor peint, ils ont transmis une part d'eux-mêmes et je crois que ça transparaît, oui. Cette dimension des siècles et de l'investissement humain d'une foultitude de talents, de gens, d'hommes et de femmes.
Mathieu Lours, cette âme, vous la ressentez quand vous rentrez dans ce bâtiment, dans Notre-Dame de Paris ?
Oui, incontestablement. Et puis, il y a aussi la dimension religieuse de l'édifice. C'est-à-dire qu'elle a une aura sacrée. Savoir qu'on travaille pour une cathédrale, c'est quand même très particulier. Ça crée vraiment un rapport à la transcendance, qu'on soit croyant ou non. Si on enlève cette dimension religieuse à l'édifice, on lui fait perdre sa spécificité. Nos églises, et Notre-Dame de Paris en particulier.
Sacrée.
Oui, et puis surtout, les églises servent encore à ce pourquoi elles ont été construites. Un château, il n'y a plus de seigneur féodal. Versailles, il n'y a plus de roi. Donc on a la dimension artistique, il peut y avoir quelqu'un qui habite dedans, mais cette personne n'a plus de droits féodaux sur les habitants du coin. Alors que la messe qui se célèbre dans une église, c'est la même qu'il y a 17 siècles.
Vous étiez vous-même, Mathieu Lours, le 15 avril 2019. Vous vous souvenez de ce moment ?
Très bien, j'étais derrière Notre-Dame, à peu près à 200 mètres derrière, dans l'île Saint-Louis. Et j'ai assisté donc au désastre. J'ai fini sur le quai de Montebello à 9h du soir dans la nuit. Enfin, c'est vraiment
et dans la foule de personnes,
un moment,
effectivement,
un moment
très
absolument
très
inoubliable.
Ému.
Inoubliable.
Et aujourd'hui, quand vous voyez ce qui a été accompli en 5 ans sur cette cathédrale?
Ce qui est fascinant, c'est les 3 états de Notre-Dame, ou les 4 états de Notre-Dame. On l'a en quelques années vu en flammes, un brasier. Ensuite, on l'a vu en ruine, avec ses cendres, ses poutres calcinées. Ensuite, on l'a vu en chantier. Et maintenant, on la voit comme on ne l'a jamais vue, c'est-à-dire en bon état, propre, prête à servir à ce à quoi elle sert, c'est-à-dire accueillir les fidèles et les visiteurs.
Alors nous allons revenir à la cérémonie qui a lieu en ce moment, donc la messe de réouverture de la cathédrale, qui sera donc la messe de consécration de l'autel en particulier. Pour le recteur de la cathédrale Notre-Dame de Paris, Mgr Olivier Ribadeau-Dumas, en tout cas cette réouverture au culte a une force particulière.
Je suis prêtre du diocèse de Paris, donc effectivement, la cathédrale pour moi est l'église mère de mon diocèse. C'est là où, il y a 34 ans, effectivement, j'ai été ordonné prêtre. J'ai vibré comme les uns et les autres lors de son incendie et je suis particulièrement ému et heureux de la retrouver. Alors moi, par rapport à mes confrères, j'ai la chance d'y être entré très très régulièrement pendant ces dernières années. Mais je pense que de retrouver le peuple de Paris avec ses pasteurs pour célébrer ensemble la joie de la vie chrétienne, eh bien, est une occasion d'espérance et d'action de grâce immense.
Arnaud Adibert, on voit actuellement donc donc Mgr Ulrich qui a quelque chose dans les bras au-dessus de l'autel. Qu'est-ce qu'il fait ?
Là, c'est un moment vraiment qui a un poids tout à fait particulier parce que c'est le moment où l'archevêque va, donc avant de consacrer réellement l'autel, il va déposer à l'intérieur de l'autel, qui est un autel de bronze, des reliques, les reliques de 5 saints, enfin 4 saints et un bienheureux, qui sont des saints de Paris. Alors, quelle est la signification de ce geste? Il faut bien se rappeler qu'au tout début du christianisme, les premiers chrétiens célébraient la messe presque dans les catacombes, donc sur les ossuaires, donc sur les restes des corps des martyrs. Là, il s'agit de se rappeler cela, sauf que les saints, en l'occurrence, ne sont pas martyrs, enfin, en tout cas pas tous. Et donc, on prend l'habitude de célébrer sur des autels dans lesquels il y a des reliques de saints. L'urne dans laquelle les reliques sont déposées, ça s'appelle un sépulcre, donc ça fait vraiment référence aux catacombes du premier temps des christianismes.
On va revenir à la cérémonie, mais auparavant, l'architecte en chef Philippe Villeneuve, qu'on a déjà entendu au début de l'émission, lui est littéralement habité par la cathédrale. Il a la cathédrale Notre-Dame de Paris dans la peau. Il a d'ailleurs des tatouages de plusieurs parties de la cathédrale sur le torse, sur les bras. Et c'est aussi cet amour pour cette cathédrale qui l'a porté dans cette reconstruction, dans cette restauration.
À titre personnel, je ne me suis jamais caché de l'amour totalement presque irrationnel que j'ai pour un monument en pierre, mais qui a tellement de vie, d'émotions, ça porte beaucoup d'émotions humaines. Il y a la musique, il y a l'orgue, il y a la lumière, les vitraux, tout ça c'est un univers extraordinaire. Et lorsque le destin a fait que j'ai été en charge de cette cathédrale et que malheureusement j'ai dû supporter l'incendie du 15 avril, j'ai été meurtri à un point qu'on ne peut pas imaginer. Là, je dois dire que se dire que personnellement on œuvre sur une telle cathédrale et un tel chef-d'œuvre, c'est à la fois de la fierté, mais alors une humilité terrible parce qu'on n'a pas le droit de la trahir pour le monde. Donc c'est très lourd sur les épaules. Notre-Dame, là, va livrer au monde une image qu'aucun vivant aujourd'hui n'a jamais vu.
Vous attendez aussi l'orgue qui va sonner dans cette cathédrale ?
Bien sûr. L'orgue est un instrument avant. Et l'orgue, c'est aussi la voix de la cathédrale. Et de se dire, cet instrument avant, il respire. Donc le cœur de Notre-Dame bat à nouveau et on attend qu'avec impatience qu'elle prononce ses premiers mots et que les cloches sonnent aussi, c'est-à-dire que les cloches de la tour nord vont ressonner. Les cloches de la tour sud, ça ne sera pas forcément au rendez-vous du 8, mais ce sera quelques jours après. Mais l'allégresse sera partout, dedans et dehors.
Alors on a entendu ces cloches sonner de nouveau, l'orgue résonnait dans la cathédrale et puis parmi les personnes qui se rendaient régulièrement sur le parvis de Notre-Dame jusqu'à la fin du chantier, l'émotion était toujours là avec le souvenir de l'incendie et l'attachement à cette cathédrale, croyant ou non croyant.
Je sortais d'un cours et j'ai vu la flèche brûler.
La cathédrale a brûlé, ouais. Moi je suis un petit peu attaché parce qu'à 12 ans j'ai fait ma communion solennelle. C'était un moment magique quoi.
Donc cet incendie vous a touché particulièrement et...
Oui, il y a eu un attachement que je n'avais pas auparavant. J'aime bien venir à Paris, et surtout au quartier de Saint-Michel, et voir Notre-Dame quoi, de nos propres yeux. Et ça nous comble de joie quoi, déjà, et parce que c'est quand même un monument unique au monde, hein, on va dire. Des cathédrales, il y en a beaucoup, hein, on est d'accord. Hein. Mais celle-là, oui, elle a un sens un peu plus profond au niveau spirituel et...
Puis on suit le déroulé, hein, des travaux, hein, on a suivi, oui, parce qu'on n'habite pas très loin.
Ça va être aussi beau à l'intérieur qu'à l'extérieur, quoi. C'est la Renaissance. Hein. Voilà.
Voilà, donc nous sommes en pleine Renaissance. Arnaud Alibert, nous sommes en direct sur RFI. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef au journal La Croix et nous suivons donc cette messe inaugurale de la cathédrale Notre-Dame de Paris. On fait le point sur cette cérémonie. Où en est-on ?
Alors là, on en est au moment de la consécration de l'autel, donc qui est le sommet de la célébration, même si en rigueur de terme, le sommet, ça va être le moment de l'Eucharistie elle-même qui va être célébrée sur l'autel. Alors, comment décrire cette cérémonie de la consécration de l'autel ? En fait, il faut essayer d'avoir en tête de se remémorer le baptême d'un enfant, par exemple. Et c'est les étapes du baptême de l'enfant qui sont reprises pour l'autel.
Et justement, donc, le recteur de la cathédrale, Monseigneur Olivier Ribadeau-Dumas, nous expliquait pourquoi, effectivement, on fait cette messe de consécration de l'autel.
La consécration de l'autel est le signe même que ce meuble, si j'ose dire, ne sert pas à n'importe quoi, mais que c'est là qu'a lieu ce qui est le plus important pour les chrétiens, c'est-à-dire la célébration de l'Eucharistie. L'archevêque de Paris donc le marque avec le Saint-Crème, il y fait brûler de l'encens, il illumine l'autel pour signifier qu'il a un usage spécifique et qu'il ne peut servir qu'à cet usage-là. Le premier geste qui est dans le rite de consécration de l'autel est effectivement de mettre dans l'autel des reliques de saints qui sont en lien avec la vie du diocèse de Paris. Donc il y aura notamment Saint-Charles de Foucault, des reliques de Saint-Charles de Foucault, des reliques de Saint-Eugénie Milrey, des reliques de différentes personnes qui sont en lien avec la vie du diocèse de Paris.
Arnaud Alibert, vous parliez de ces reliques tout à l'heure. Effectivement, c'est ce à quoi a procédé donc Monseigneur Ulrich, l'archevêque de Paris. On est sur cette... Donc, qui est devant cet autel très épuré, hein, un autel en bronze d'une forme qui ressemble d'ailleurs à une coque de bateau renversée, dessiné par le designer Guillaume Bardet, qui doit être consacré donc maintenant, ces rituels, donc des gestes particuliers.
Oui, en fait, si on regarde ce qui s'est passé depuis le début de la célébration, on a eu l'archevêque qui est au tout début de la célébration, quand il a aspergé le peuple avec l'eau bénite, il est passé devant l'autel sans s'incliner parce que l'autel n'était pas encore consacré, mais il lui a fait une bénédiction d'eau, donc on a eu le geste de l'eau. Là, on a une longue prière avec les mains au-dessus de l'autel, qui est donc la forme très classique de la prière de bénédiction. Et puis vont s'enchaîner. Alors, ça va prendre du temps. Des rites essentiels que l'on retrouve au baptême, qui vont être un peu comme un baptême pour cet autel. Il y aura d'abord l'onction d'huile, le Saint-Crème. Ce Saint-Crème, c'est une huile qui est une huile parfumée, qui est utilisée pour les baptêmes, pour la confirmation et aussi pour les ordinations de prêtres. Donc c'est vraiment un signe royal, on va dire, c'est-à-dire que c'est avec cette huile que c'est à cette huile-là qu'on fait référence quand on fait référence à la consécration royale du roi David. Les rois de France aussi étaient consacrés avec l'huile sainte. Et là, aujourd'hui, cette huile du Saint-Crème est en fait une manière de signifier le combat pour Dieu, c'est-à-dire donner peu de prise à l'adversaire et aussi, puisqu'elle est parfumée, répandre la bonne odeur de la foi, de la joie autour de soi.
La Alors on va revenir un petit peu à l'histoire de cette cathédrale, si vous le voulez bien. Pour l'architecte Philippe Villeneuve, Notre-Dame est un concentré d'histoire et c'est ce qu'elle raconte.
Notre-Dame, pour moi, c'est un ensemble. C'est effectivement un emblème pour la chrétienté. C'est un jalon incroyable dans l'histoire de l'architecture gothique. Et donc, il y a toute cette dimension historique. 860 ans d'histoire de France, il s'est passé énormément de choses. On passe du XIIe siècle en passant par la Révolution, mais en étant passé par Saint-Louis. Il y a eu tous ces bouleversements. Il y a eu le sacre de Napoléon. Il y a eu la libération de Paris en 1944, où Charles de Gaulle est rentré dans la cathédrale pour écouter un Magnificat. Il y a eu... plus récemment, hélas, des rassemblements pour les victimes des attentats. Et puis là, il y a eu cette catastrophe. Et je pense que la réouverture sera à nouveau un événement important dans l'histoire de cette cathédrale, parce que c'est presque, j'ai envie de dire, le plus beau jour de sa vie après sa consécration en 1180.
Et j'ai demandé à l'historien Mathieu Lourz de revenir aussi sur la genèse de ces monuments religieux.
Il y a la conjonction d'une ambition spirituelle et d'une réalité matérielle. On a d'une part la papauté qui, au XIe siècle, décide que désormais, il faut rassembler tout le monde, les clercs, les laïcs, dans une seule et même cathédrale dans le diocèse. Auparavant, on avait une grande église pour les fêtes et avec le siège de l'évêque, une autre pour les chanoines, les prêtres qui prient, une autre pour les baptêmes, le baptistère. Tout ça, désormais, on doit le remplacer par une seule et même grande église. Et ce moment, il intervient au XIe siècle, au moment aussi du décollage économique de l'Occident. Croissance de la population, croissance économique, croissance de la richesse foncière, eh bien, ça met tous les curseurs au vert pour remplir les exigences spirituelles avec ce défi matériel qui est la construction de gigantesques églises qui, ensuite, dans un processus de rivalité et d'émulation, vont essayer d'être les plus grandes, les plus hautes. Mais sans jamais véritablement dépasser les abbatiales. La plus grande église de France construite au Moyen-Âge, c'est l'abbatiale de Cluny. C'est les moines. En hauteur, elle est dépassée par les cathédrales, mais en superficie, le clergé régulier a quand même toujours eu son mot à dire.
Mais on passe aussi à des nouvelles techniques qui permettent d'aller plus haut. On passe au gothique.
Oui, à partir des années 1130, on a cette mutation qui est esthétique et structurelle, pour donner davantage de lumière à l'intérieur des édifices, suivant la pensée qui est la pensée intellectuelle de cette époque, qu'elle soit liée à Aristote ou à Platon, en tout cas, on veut concilier Dieu et sa manifestation par la lumière. Il faut donc que l'architecture se fasse simplement mince support pour laisser l'abondance de cette lumière entrer. Donc ça commence à Saint-Denis, avec la couronne de lumière du déambulatoire autour de l'autel des reliques, et très vite, les évêques comprennent l'importance. Et la première cathédrale gothique, c'est celle de Sens. Fin des années 1130.
Et Notre-Dame de Paris ?
Notre-Dame de Paris, elle arrive à la fin de ce qu'on appelle le premier art gothique. Un art gothique encore marqué par une certaine volonté de stabilité. On n'est pas dans l'élancement le plus important, qui est plutôt au XIIIe siècle, avec l'art gothique rayonnant. Notre-Dame, c'est la fin du premier gothique, 1163. Et elle est bâtie
la
pour
la première
être...
pierre, donc, qui est voilà. Posée par Maurice de Sully, qui est évêque de Paris.
Voilà, depuis 1160, il est évêque, il a ce grand projet de reconstruire la cathédrale et il l'a construit pour qu'elle soit la plus grande et la plus haute à l'intérieur à cette époque. 121 mètres de long, 31 mètres sous voûte. Elle a été complètement dépassée au XIIIe siècle, mais c'est elle qui inaugure le mouvement des cathédrales géantes.
Avec cette construction de tours, donc le lien entre le ciel et la terre.
Oui, on a vraiment toujours ce signal avec les tours de cathédrale qui indique l'endroit où le ciel et la terre se rejoignent, c'est-à-dire l'église, et la flèche en particulier qui montre l'emplacement où se trouve l'entrée du cœur de l'église.
Arnaud Alibert, on revient à la cérémonie qui se déroule actuellement avec Mgr Ulrich qui passe sa main avec l'huile qu'il a versée sur l'autel pour le consacrer.
Oui, c'est un geste qui est à la fois fort et plein d'une immense tendresse. On dirait qu'il est en train de prendre soin d'un corps, comme peut-être on s'imaginerait que les femmes venues au tombeau le matin de Pâques auraient aimé répandre de l'huile onguant sur le corps du Christ. En fait, c'est un geste qui... qui vient signifier une forme de bienveillance et puis de consécration, c'est-à-dire de dire que cet objet-là, il est le point de passage entre la vie des hommes et la vie de Dieu. Alors, pour être plus précis, il a commencé par mettre de l'huile, le Saint-Crème, sur les cinq croix qui sont en feuille d'or, dans la masse même du bronze.
De cet autel en bronze.
Voilà.
Oui.
Et ensuite, il répand l'huile sur toute la surface de l'autel. Donc, il en répand largement avec sa main droite, qui est largement imbibé d'huile. On peut remarquer un point. Un, la forme de l'autel, qui est vraiment une forme de parabole, c'est-à-dire qu'elle est un pied central qui est arrondi et qui elle part largement vers l'extérieur pour donner un grand espace de liturgie. Et c'est un autel qui est assez haut. Donc on voyait l'archevêque qui, au moment de répandre l'huile sur l'autel, faisait attention à la manche. Alors c'est un détail peut-être, mais c'est pour vous dire que cet autel, il est très haut, en forme... Enfin, il est déjà donc presque... il a déjà presque, on va dire, un pied dans le ciel.
Alors, au XIVe siècle, on va revenir un petit peu dans l'histoire. Le temps de la construction des cathédrales s'est arrêté. Puis après, c'est l'époque du gothique flamboyant. Mais ces lieux de culte ont aussi souffert des batailles, des guerres à différentes périodes de l'histoire, comme le rappelle l'historien Mathieu Lours.
Au XVIe siècle, on a l'iconoclasme protestant, c'est-à-dire que les protestants considèrent les cathédrales comme des cibles et les armées protestantes les pillent partout où elles passent. La cathédrale d'Orléans, en 1568, le prince de Condé l'a fait sauter à l'explosif.
Et puis après, les guerres de religion, donc on a aussi tout ce qui a pu marquer la vie des cathédrales à différents moments. On a aussi la Révolution française qui marque aussi là encore une destruction.
Alors, la Révolution française a beaucoup moins détruit que les protestants. Elle a battu 6 cathédrales, mais essentiellement pour des raisons foncières. C'est-à-dire que la cathédrale ne sert plus, on la vend. Et ensuite, les spéculateurs font le reste. Mais la Révolution a surtout été traumatisante pour les cathédrales, parce que c'est la seule période de leur histoire où le culte catholique a cessé.
Oui, c'était la religion laïque sans Dieu,
voilà,
à l'intérieur.
On peut d'ailleurs être étonné, parce que l'État aurait pu décider de construire ses propres temples, des temples de la raison et de la liberté. Mais il a préféré... comme les cathédrales lui appartenaient, les utiliser comme temples civiques.
Après la Révolution française, il y a quand même une restauration du culte catholique en 1801 par Napoléon, qui se fait sacré empereur à Notre-Dame de Paris,
oui,
en 1804.
Et pas seulement sacré empereur, c'est-à-dire que c'est une cérémonie extrêmement complexe qui intègre la dimension religieuse et la dimension civile de Notre-Dame de Paris. Il y a bien le couronnement de Napoléon par lui-même, avec la bénédiction du pape dans le cœur, et ensuite, dans la nef, sur une gigantesque estrade, il vient prêter le serment civique sur le code civil. C'est-à-dire que ça n'a rien de religieux, ce qui se passe dans la nef. C'est vraiment la double nature de la cathédrale. Et le pape, d'ailleurs, quitte la cathédrale à ce moment-là, parce que le code civil, il y a les articles sur le divorce qui ne sont pas compatibles avec les pratiques de l'Église.
Alors actuellement, nous sommes bien dans une cérémonie religieuse. Nous étions donc avec Mathieu Lours, historien, qui revenait sur ces histoires qui se sont déroulées dans cette cathédrale. Avec aussi donc les deux guerres mondiales, la cathédrale Notre-Dame de Paris n'a pas été détruite, d'autres l'ont été, d'autres églises également. Ces destructions qui ont été opérées pendant ces guerres mondiales ont justement redonné donc aux compagnons la possibilité de trouver les moyens de reconstruire, de restaurer, de reconstruire à l'identique. Donc c'était une expérience de reconstruction, de restauration, ce que Mathieu Lours appelle la transmission générationnelle des compagnons, un travail donc en symphonie, en harmonie, comme nous le raconte par exemple Pascal Larsonneur, qui a travaillé sur les reconstructions de gargouilles et de chimères qu'on appelle le bestiaire de Notre-Dame. Lui a eu la vocation très jeune.
J'allais dans les églises très souvent avec ma maman qui allait à la messe et puis qui égrenait son chapelet. Ça dure longtemps, donc j'avais le temps d'observer, de regarder, et je me posais la question. J'avais 6-7 ans à l'époque, et je me posais la question. Je me disais, mais c'est la main de l'homme qui réalise toutes ces belles choses autour de moi, ces frises, ces statues, ces peintures et autres éléments sculptés dans l'édifice là. Et je me disais, mais j'aimerais bien arriver à savoir faire ça aussi. Pourquoi ? J'avais déjà un peu les dons artistiques du fait que je dessinais un peu, voilà, et je trouvais ça tellement beau qu'un homme, un sculpteur puisse arriver à faire une sculpture bien démonstrative sur un Saint-Antoine, une Sainte-Thérèse, un Christ en croix. Je disais, mais quelle merveilleuse intervention de l'homme. C'est fort ça, d'arriver à faire ça. J'ai appris mon métier à l'âge de 15-16 ans, en taille de pierre. Ça m'a permis de voyager après sur les monuments historiques et trouver ma voie, en fait.
Et le fait de travailler sur ce chantier,
c'est un aboutissement, en fait. Le fait d'avoir réalisé une pièce maîtresse, quand même, et importante, sur Notre-Dame de Paris, et l'avoir posée, qui va rester là pendant plusieurs siècles, surtout se dire qu'on est dans l'esprit de l'édifice pour pouvoir aider à ce que Notre-Dame continue à vivre. Et d'ailleurs, sur le chantier, on ne parle pas d'incendie, on parle de la reconstruction, de rebâtir. On sent que tout le monde est là pour rebâtir Notre-Dame. Et je trouve que tout le monde a envie de revoir le poumon et le cœur de Notre-Dame rebattre à nouveau et nous redonner encore plein d'émotions, quoi.
On refait le point sur la cérémonie avec Arnaud Alibert ici en studio. Donc on est toujours autour de l'autel avec cette consécration.
Là, l'image est assez forte parce que l'autel est honoré comme on honore les personnes. Il est honoré par l'encens et l'encens lui donne comme s'il reprenait feu en fait, comme s'il était fumant mais d'un incendie passé. Donc il y a la superposition de l'image de l'incendie et celle de la restauration. Peut-être qu'on peut à ce moment-là se redire que l'autel. Donc la consécration de l'autel, c'est vraiment un rite complet. Donc après l'encens, il va y avoir deux autres rites absolument majeurs et qui rappellent ce que je disais tout à l'heure, le moment du baptême. C'est donc comme un baptême pour cet autel, si j'ose dire, puisque une fois que l'enfant a été plongé dans l'eau, ou qu'il a reçu l'eau, puis il a reçu le Saint-Crème, l'onction de son baptême, il y a deux autres rites. Il revêt un vêtement blanc qu'on appelle la robe de baptême et puis il reçoit la lumière. Eh bien, ce sont ces deux rites-là que l'on va vivre maintenant. On va draper l'autel avec une nappe blanche et ensuite on déposera les cierges de l'autel avec un septième cierge qui est celui que l'on met habituellement quand l'archevêque préside l'Eucharistie. Peut-être on peut noter un dernier point qui montre le côté exceptionnel de la célébration, c'est que les vêtements liturgiques sont blancs. Normalement, nous sommes le deuxième dimanche de l'Avent, tout le monde devrait être en violet, mais là c'est le blanc qui l'emporte pour dire, en fait, le blanc c'est la lumière, c'est la couleur de la résurrection, donc c'est pour dire que d'une certaine manière on est en train de ressusciter Notre-Dame à son usage.
Donc ici un usage cultuel, et l'historien Mathieu Lourdes insiste aussi sur ces nouveaux aménagements qui ont été faits dans la cathédrale pour accueillir tout le monde, donc, puisque c'est un bâtiment qui est à la fois cultuel, culturel et politique.
Il y a toute une histoire. J'avais consacré un livre en 2021 à cette histoire politique de Notre-Dame. Je dirais de Childebert à Emmanuel Macron, c'est en passant par les rois, c'est l'église de l'État. La paroisse de l'État, comme on disait au XVIIIe siècle. Et effectivement, la France y a toujours célébré ses grandes heures. Des heures de joie, des heures de tristesse, des tédéums et des pompes funèbres. Et ça dure jusqu'aux obsèques présidentielles de François Mitterrand.
Alors justement, ce que disait Mathieu Lourdes, c'est que ce bâtiment a été utilisé aussi à des fins politiques. Donc là, nous sommes dans la célébration. On va bientôt avoir l'Eucharistie, donc la messe qui est célébrée dans cet espace. Mais c'est un espace partagé, Arnaud Alibert.
Oui, ça me paraît complètement normal. Et je pense que c'est dans presque toutes les cultures la même chose.
Plus de touristes que de fidèles, finalement.
Alors ça c'est certain, mais quand on a un bâtiment de cette ampleur à la fois artistique, historique, et puis ses dimensions propres, on voit bien qu'il célèbre, au-delà de célébrer Dieu, il célèbre une nation, c'est l'église de Paris, mais c'est aussi l'église de la France. Donc on voit bien qu'au moment où il faut célébrer les grands moments nationaux, je noterai dans l'histoire récente la fameuse messe qui est deux jours après les attentats du Bataclan, où au moment de l'Eucharistie, c'est-à-dire au moment où on apporte les offrandes sur l'autel, l'organiste de la cathédrale de Paris fait une improvisation, enfin une variation de 4 minutes sur la Marseillaise, donc pour dire que la vie des hommes n'est pas étrangère à la vie du culte.
Alors, nous sommes proches de la fin de l'émission, mais la messe se poursuit. Le recteur de la cathédrale Notre-Dame de Paris, en tout cas, pour lui, pour Mgr Olivier Ribadeau-Dumas, cette réouverture au culte de Notre-Dame de Paris est un signe d'espérance.
Nous souhaitons, et je souhaite avec tous, que la réouverture de la cathédrale soit un signe et une source d'espérance pour les Français et plus largement pour le monde entier. Il y a peu d'occasions dans notre monde où nous puissions manifester aussi bien l'unité qui a prévalu pour la reconstruction de la cathédrale que l'espérance dont elle est le signe. Ce qui semblait mort est revenu à la vie. Et ce qui semblait impossible est devenu possible. Et c'est le signe même que dans ce monde, alors que par beaucoup de choses semble désespéré, eh bien lorsqu'on est ensemble, lorsqu'on a un but commun, il y a une possibilité de réussir. Et c'est ce signe même que nous voulons manifester. La cathédrale, en plus de ça, est un lieu indissociablement cultuel et culturel. Et donc la renaissance du culte à l'intérieur même de la cathédrale est une occasion de joie pour l'ensemble des chrétiens et de tous ceux qui sont attachés à l'Église dans notre pays.
Un signe d'espérance alors cette réouverture, Arnaud Libert?
Tout à fait, là, en plus sur le chant de Joyeuse Lumière, qui est l'un des chants les plus anciens du christianisme occidental, donc qui est le chant d'une joyeuse lumière, c'est-à-dire la foi qui est associée à la lumière. Alors, je crois que là, on peut s'arrêter une minute sur cette lumière. La lumière, c'est à la fois celle qui est posée sur l'autel actuellement pour dire la consécration de l'autel, mais c'est aussi la lumière qui peut de nouveau entrer dans Notre-Dame par les vitraux qui ont été restaurés et qui sont absolument magnifiques. Donc, on en retrouve les couleurs. Alors, on ne va pas reprendre la polémique sur les vitraux, mais là, c'est clair que en un an, tous les vitraux ont été restaurés, nettoyés. Donc, il y a une lumière polychrome qui n'a jamais été constatée aujourd'hui dans Notre-Dame de Paris. Et enfin, c'est peut-être le signe que donnent les ornements liturgiques, la lumière que Notre-Dame projette sur la France comme signe d'espérance pour tout le monde, que ce soit des croyants ou des non-croyants.
Alors, il faut dire que cette messe est la première messe donc donnée dans la cathédrale Notre-Dame de Paris. Il y en aura deux par jour, donc une aujourd'hui encore à 18h30 pour les fidèles qui se sont inscrits, qui se sont précipités d'ailleurs pour s'inscrire. Il y a des listes d'attente, donc il y aura deux messes par jour à partir d'aujourd'hui. Et puis, donc une réouverture progressive. Il y aura aussi le 13 décembre qui sera un moment important avec le retour de la couronne d'épines, Arnaud Libert.
Oui, la couronne d'épines qui on se doute bien, fait référence à la couronne portée par le Christ au moment de sa passion. Alors, pour ceux qui la verraient, il y aura une forme de déception parce que les épines ont été distribuées au long de l'histoire comme signe de lien entre les communautés chrétiennes, les églises et l'église de Paris. Donc, il ne reste que le support de la couronne.
Merci beaucoup, nous arrivons à la fin de cette émission. Merci beaucoup Arnaud Adibert d'être venu en studio pour suivre cette première messe dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, restaurée et rouverte au culte et au public, donc avec cette messe de consécration de l'autel. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef au journal La Croix et prêtre assomptionniste. Merci.
Merci.
Et merci à Ludivine Amado qui a réalisé cette émission que vous pouvez réécouter sur l'appli Pure Radio et les réseaux sociaux à la page Religion du Monde. Et tout de suite, le journal sur RFI avec Karine Bellichat.